Vous écoutez France Musique.
Et on retrouve Thierry Beauvert, Beauvert d'Oreille. Bonjour Thierry.
Bonjour et réjouissez-vous mon petit Jean-Mimi. Ah. Cette semaine, ce n'est pas Justin Bieber qui va nous voler la vedette, non. Le sale gosse s'est fait carotter la première place par Katy Perry. Celle du plus grand nombre d'abonnés sur son compte Twitter, la chanteuse états-unienne, vient en effet de dépasser la barre et la première des 50 millions d'accros. Et oui. Je dois vous avouer, vous soupçonnez un peu d'être le dernier en date. Au top aussi cette semaine, Hikaru Utada, la chanteuse japonaise, adulée elle aussi par des millions de fans et qui vient annoncé son prochain mariage avec un citoyen ordinaire d'origine italienne, serveur dans un bar londonien, et dont elle n'a pas voulu révéler l'identité de peur sans doute de lui cacher le service. Scandale toujours au Japon et en revanche avec les aveux du compositeur Mamoru Sumarugashi, surnommé le Beethoven nippon, puisqu'il est sourd depuis une vingtaine d'années, et qui s'est fait une sorte de harakiri médiatique en confessant qu'avec sa maladie, il avait eu recours à un nègre, lequel menaçait aujourd'hui de le dénoncer, ne serait-ce que parce qu'il est le véritable auteur de sa première symphonie, Hiroshima, laquelle s'est vendue à plus de 200 000 exemplaires. Elle n'a pas eu recours à une doublure ou au playback, mais suite à un traumatisme sonore aigu en studio, Lara Fabian a été contrainte de mettre fin à sa tournée pour suivre en Belgique un traitement assez lourd à base de corticoïdes si elle ne veut pas perdre définitivement l'audition. Consternation aussi en Chine après la diffusion du gala télévisé marquant le nouvel an lunaire où durant 4 heures, Weikaki, une danseuse de 15 ans, a tourné sur elle-même, telle une toupie folle, pour marquer la révolution du temps et l'entrée dans l'année du cheval. Une prouesse qualifiée de cruelle par la plupart des internautes, quand bien même le programme, lui, a atteint une audience record. Et moi aussi aux États-Unis où les amoureux de nos animaux, les bêtes, les oiseaux en l'occurrence, s'offusquent de voir que dans toutes les fictions américaines, de Star Trek aux Simpsons, en passant par Iron Man, dès qu'un oiseau de mauvais augure pointe son bec à l'écran, qu'il s'agisse d'un corbeau, d'un aigle ou d'un vautour, eh bien c'est le cri de la buse à queue rousse que l'on entend. Et pourtant le proverbe dit bien « buse, rapace utile ».
Voilà.
Oui, il fallait que je le fasse. C'est ça. Autre réhabilitation en cours, celle d'Antonio Salieri par le musée Mozart de Vienne. Le film de Miloš Forman avait largement accrédité, on s'en souvient, l'idée que l'ancien mentor d'Amadeus aurait été l'empoisonneur de son disciple, jaloux de son génie. Hypothèse battue en brèche par Otto Biba, commissaire de l'exposition, qui vient donc de s'ouvrir à la Mozart House, laquelle présente toute la correspondance où Mozart ne tarit pas d'éloges, au contraire de son papa Léopold, sur son ancien maître. Quant à Constance, une fois veuve, comment aurait-elle pu envoyer son fils Franz Xaver étudié auprès de son meurtrier. En attendant donc de connaître un jour sur la vérité du crâne de Mozart enfant, Glenn Veillant, lui, ex-professeur de journalisme à Tucson, est parti à l'assaut de la barrière séparant le Mexique des États-Unis, armé d'un archet de violoncelle, d'un maillet et de quelques bidules électroniques, mais autant vous le dire, le résultat sonore dissuaderait le moindre des candidats à l'émigration. À propos de violoncelle, Aaron Zelkovich, soliste d'orchestre de Miami, s'est amusé à collectionner les photos de ses confrères les plus célèbres où ils n'apparaissent qu'avec un seul œil, l'autre étant cassé par la tête de l'instrument. Il y a une vraie collection, un peu vain mais marrant. En revanche, à la rubrique enfonçant les portes ouvertes, il n'a pas fallu moins de deux équipes de grosses têtes, l'une de la Royal Academy of Music, l'autre de l'Université de Birmingham, pour démontrer, étude à l'appui, que dans un quatuor à cordes, même s'il y a plus ou moins de démocratie, c'est quand même le premier violon qui reste le patron.
Oui.
Allez, terminons plutôt sur un beau geste, celui que vous pourriez faire, mon petit Jean-Mimi, avec vos cachets à peine inférieurs à ceux d'un Bill Gates.
Oui.
L'État finlandais, peu sentimental ou à court de liquidité, a en effet décidé de vendre aux enchères la Villa Matila, que Jan Sibelius occupa à Kerava de 1889 à 1902, où il composa notamment Finlandia et ses deux premières symphonies. La baraque est restée dans son jus, elle est plutôt coquette et dispose même d'une grange où le musicien se réfugiait pour travailler lorsque les enfants faisaient trop de bruit. Idéal pour préparer vos matinales.
Voilà. Merci Thierry, à la semaine prochaine. Et bien sûr, on vous retrouve dimanche à 12h30 au Diable Beauvert, vous recevrez la violoncelliste Anne Gastinel. Et dimanche soir, la tribune des critiques de disques avec la symphonie numéro 1 de Bruckner. France Musique, 8h43, musique du 17e et du début du 18e maintenant avec ce disque bâti autour du compositeur italien Giuseppe Tartini, un programme de sonates, de duos pour violon et de concertos qui rassemble plusieurs compositeurs européens de cette période comme l'allemand Johann Gottlieb Graun.